C'était d'une de ces jolies et charmantes filles, née, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée, par un homme riche et distingué. Elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant pas être parée, mais malheureusement comme une déclassée, car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme, leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie et font des filles du peuple les égales du plus grand dame. Elles souffraient sans cesse, se sentant nées par toutes les délicatesses et tous les luxes, elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes, toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturait et l'indignait.
La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres nettes capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze et aux deux grands valets en culottes courtes qui dormaient dans des larges fauteuils assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables et aux petits salons coquets parfumés, faits pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes. Les hommes connus et recherchés de tous, dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde, couverte d'une nappe de 3 jours, en face de son mari, qui découvrait la soupière en déclarant d'un air argenté : Ah, le bon pauvre Tofu, je ne connais rien de meilleur que cela. Elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges d'une forêt de féeries. Elle songeait aux plats esquis, servis dans des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gelinotte.
Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela, elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Il avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir tant qu'elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari rentra l'air glorieux et en tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voilà quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et tira une carte qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Rampenot prient Monsieur et Madame Loisel de faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère, le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table et murmurant « Que veux-tu que je fasse de cela ?»«
Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais et cela est une occasion, cela est une belle. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. C'est très recherché et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. » Elle le regardait d'un œil irrité et elle déclara avec impatience « Que veux-tu que je mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé. Il balbutia. « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait et perdu en voyant que sa femme pleurait. De grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers le coin de la bouche. Il bégaya. « Qu'as-tu ? Qu'as-tu ?» Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme et essuyant ses joues humides. « Rien, seulement je n'ai pas de toilette et par conséquent je ne peux pas aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. »
Il était désolé. Il reprit. « Voyons, Mathilde, combien sous là que traite-t-il ? Une toilette convenable qui pourrait te souvenir encore en d'autres occasions, quelque chose de très simple. » Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe. Enfin, elle répondit en hésitant. Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. Il avait peu à l'écart, il réservait juste cette somme pour acheter un fusil, s'offrir des parties de chasse. L'été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes. Par là, le dimanche.
Il dit cependant, « Soit je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête approchait et Mademoiselle Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir, « Qu'as-tu ? Voyons, tu es tout drôle depuis 3 jours. » Et elle répondit, « Cela m'ennuie de ne pas avoir un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit. « Tu mettras des fleurs naturelles. C'est très chic en cette saison-ci. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. » Elle n'était point convaincue. « Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. »
Mais son mari s'écria. « Que tu es bête ! Va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. » Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai, je n'y avais point pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à Madame Loisel. « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierreries, d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait pas décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours, « Tu n'as plus rien d'autre ? Mais si, cherche, je ne sais pas ce qui peut te plaire. »
Tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants, et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en l'apprenant. Elle attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela, rien que cela ?»« Mais oui, certainement. » Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva, Mademoiselle Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur, fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de toute cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes.
Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules des vêtements qu'ils avaient apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppèrent de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors, je vais t'appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point, elle descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture. Ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer au loin et descendaient vers la Seine, désespérés, grelottant. Enfin, ils se trouvaient sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voyait que dans Paris, que la nuit venue, comme ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour.
Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elles. et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppé les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus la rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu, déjà demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier !» Il se dressa éperdu. « Quoi ? Comment ? Ce n'est pas possible !» Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»«
Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ? Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé ? Non. » Il se contemplait atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouve pas. » Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures partout, enfin, où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour dans le même état d'affairement devant cet affreux désastre.
Loisel revint le soir avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien de découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrit sous cette dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendit chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors, ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux, de chagrin et d'angoisse.
Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parurent entièrement semblables à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs, on le leur laisserait à 36 000. Ils prièrent dans le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours. Et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il s'emprunterait le reste. Il emprunta demandant 1 000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par ici, 3 louis par là. Et il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur. Et épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qu'il allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs.
Quand Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé, « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas les crains ce que redoutait son ami. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé ? Qu'aurait-elle dit ? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse ? Madame Loisel connut la vie horrible de ses nécessiteurs. Elle prit parti d'ailleurs tout d'un coup, héroïquement. Elle fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieux besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles sur les poterie, grasse et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torsions qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin les ordures et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler.
Et vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injuriée, défendant sou à sou son misérable argent.
Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant. Et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué. Tout, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre. Et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée.
Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait, qui sait? Comme la vie est si singulière, changeante. Comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui se promenait, un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle l'avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. Bonjour, Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise.
Elle balbutia. Mais, madame, je ne sais pas, vous devez vous tromper.
Non, je suis Mathilde Loisel. Son amie poussa un cri.
Oh! Ma pauvre Mathilde! Comme tu es changée!
Oui, j'ai eu quelques jours bien durs depuis que je ne t'ai vue. Eh bien, des misères. Et tout cela à cause de toi.
De moi?
Comment ça? Tu te rappelles bien de cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère?
Oui,
Eh bien, je l'ai perdue.
Comment? Puisque tu me l'as rapportée? Je t'en ai rapporté une autre toute pareille. Et voilà 10 ans que nous la payons. Tu comprends que ce n'était pas aisé pour nous, qui n'avons rien. Enfin, c'est fini, et j'en suis rudement contente. Madame Frostier s'était arrêtée. Tu lui dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne? Oui, tu ne t'en es pas aperçu, hein? Elle était bien pareille. Et elle sourit d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Frostier, fort aimée, lui prit les deux mains. Oh, ma pauvre Mathilde! Mais la mienne était fausse, et elle valait au plus 500 francs.